RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
L'émission en français avec Inès Azagra et Guillermo Brown.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue un jour de plus à l'émission en français sur Radio Exterior d'Espagne.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue un jour de plus à l'émission en français de Radio Exterior d'Espagne.
Bonjour Guillermo, aujourd'hui nous voyageons à Minorque pour suivre les traces d'Albert Camus. Le projet Trobades y Peremis Mediterranis Albert Camus vise à revendiquer son héritage baléaire et à utiliser son œuvre comme prétexte pour se réunir autour de la pensée critique. Nous parlons avec Sandra Monac, sa directrice. Interview réalisée par Oliver Brack.
C'est un projet qui tente d'être à la rencontre des personnalités du monde de la culture du monde actuel. Pour nous, nous nous centrons autour de trois concepts clés. Le concept de la rébellion, le concept de l'humanisme et la justice.
Nous aurons aussi la chronique de notre correspondante au Liban, Elsa Yazbek Charabati, qui nous parle des concerts organisés par l'Institut Cervantes de Beyrouth du compositeur espagnol Carlos Domínguez, en collaboration avec la chanteuse Haifa Nur Yeghian.
Vous êtes à l'écoute de la chanteuse madrilène Edith Cirka et sa chanson Aeropuerto de Orly.
À la technique, Jorge Gómez et au micro et dans vos oreilles, Inés Azagra et Guillermo Bravo, accompagnés d'Oliver Brack. À la production, comme toujours, Cristina Dorado.
L'émission en français, l'actualité du monde hispanophone en langue française.
Pasando por la cárcel de Alicante, te conté mis fantasías y tú me las realizaste. Estoy pasando por la cárcel de Alicante, te conté mis fantasías y tú me las realizaste.
Après 5 jours de pause et d'incertitude, le Premier ministre Pedro Sánchez annonce qu'il a décidé de rester au pouvoir. J'ai décidé de continuer, a déclaré le leader socialiste.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo.
Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, fragilisé par une enquête judiciaire visant son épouse, le dirigeant socialiste de 52 ans au pouvoir depuis 2018, avait suspendu toutes ses activités publiques et s'était muré dans le silence à la suite de l'annonce mercredi par un tribunal de Madrid de l'ouverture d'une enquête préliminaire contre sa femme, Begoña Gómez, pour corruption et trafic d'influence.
Nacima Baron, professeur à l'université Gustave Eiffel et à l'école des Ponts et spécialiste de l'évolution politique de l'Espagne, au micro de France Inter.
Vous savez, on est évidemment dans un contexte électoral, nous sommes pendant les élections européennes, ça ne vous échappera pas. On est aussi dans le cadre d'une campagne régionale. Ce sont les élections régionales en Catalogne qui auront lieu le 12 mai. Et donc, il y a aussi une campagne du Parti Socialiste Catalan. Et l'avenir de la Catalogne politique importe toujours un petit peu à Madrid, vous vous en doutez.
Fin de semaine compliquée aux îles Canaries, plus de 300 personnes sauvées en haute mer.
La dernière embarcation a été localisée dans la matinée du lundi avec une centaine de personnes à bord.
Le président de l'Argentine, Javier Milei, annonce qu'il viendra à Madrid pour participer dans Europa Viva 24, un grand acte politique du parti Vox pour lancer sa campagne pour les élections européennes.
Javier Milei a surpris tout le monde lorsqu'il a annoncé sur son compte de Twitter, mais c'est ce qui a surpris le plus, c'était que le dirigeant argentin ne se réunira ni avec le président Pedro Sánchez, ni avec le roi Felipe VI. Cette visite est prévue à Madrid pour les 18 et 19 mai, et ce serait la première fois que Milei vient à la capitale espagnole depuis son arrivée à la Maison Rosée, raison pour laquelle il est assez étonnant qu'il n'ait pas demandé un rendez-vous au palais de la Moncloa ni une audience au roi Felipe VI.
La branche armée du Hamas palestinien a revendiqué des tirs de roquettes lundi depuis le sud du Liban en direction d'une position militaire dans le nord d'Israël.
Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah libanais échange quotidiennement avec l'armée israélienne des tirs à la frontière libano-israélienne en soutien au mouvement islamiste palestinien. Des factions de ces derniers et autres groupes alliés ont également revendiqué des attaques transfrontalières depuis le Liban.
Côté culture, c'est Oliver qui fait le point.
Alors oui, Inès, Gérard Depardieu a été convoqué aujourd'hui à Paris pour être placé en garde à vue. L'acteur français, déjà inculpé par viol, a été auditionné hier midi dans les locaux du 3e district de la police judiciaire à Paris, suite au plan déposé par deux femmes qui lui accusent de harcèlement sexuel pendant le tournage de deux films en 2014 et 2021 respectivement.
Dans le sport, Carlos Alcaraz, numéro 3 mondial en tennis, est en 8e de finale dans le Master 1000 de Madrid après avoir gagné dimanche dernier le Brésilien Thiago Cebut Wild.
Alcaraz, dont la participation au match était incertaine en début de semaine à cause d'une blessure au bras, affrontera l'Allemand Jan Lennard Struff. Le bras toujours protégé par un manchon, Alcaraz a gagné à 6-3.
En football, les Espagnols de Football Club Barcelone ont éliminé les Anglaises du Chelsea en demi-finale. Retour de la Ligue des Champions samedi à Londres et défendront leur titre contre Lyon en finale.
Battus 1-0 à l'aller, les championnes d'Europe ont remporté la deuxième manche à Stamford Bridge par 2-0 avec des buts inscrits par Aitana Bonmatí et Fridolina Rolfo sur penalty face aux londoniennes réduites à 10 en deuxième période. Dans la Ligue des Champions masculine, le Real Madrid est la dernière équipe espagnole toujours en vie. Les Blancs jouent ce soir l'aller de leur demi-finale contre le Bayern de Munich en Allemagne, un match qui commencera à 21h heure espagnole.
L'Italien Francesco Bagnaia, double champion du monde en titre MotoGP, a remporté dimanche le Grand Prix d'Espagne devant le sextuple champion du monde espagnol Marc Márquez.
Un autre Italien, Marco Bezzecchi, complète le podium avec cette quatrième manche de la saison. Le leader du championnat, l'Espagnol Jorge Martin, est lui tombé alors qu'il était en tête de la course.
L'émission en français. L'actualité du monde hispanophone en langue française.
À la période où la guerre à Gaza, les lancements de missiles entre l'Iran et Israël et les bombardements des deux côtés de la frontière libano-israélienne enveniment le quotidien des habitants au Moyen-Orient, une bouffée d'oxygène est arrivée à Beyrouth ce mois d'avril avec les concerts de l'auteur-compositeur espagnol Carlos Domínguez organisés par l'Instituto Cervantes de Beyrouth. Le reportage de notre correspondante Elsa Yazbek Charabati.
Chanson pour un temps meilleur, campeones para un tiempo mejor. C'est ainsi que s'intitulent les concerts de l'auteur-compositeur-interprète espagnol Carlos Domínguez en collaboration avec la soprano Haifa Nour Yeryayan. Des concerts donnés à Beyrouth, Tripoli et Baalbek comme une déclaration de foi et d'amour entre l'Espagne et le Liban, comme le soulignent les deux artistes.
Et d'une manière, générer ce, à travers nos voix et nos différentes langues, ese encuentro de culturas, de Oriente, d'Occidente, y tan necesario, ¿no?, en este tiempo.
Dans ces circonstances qui sont difficiles dans la région, je suis très ravie de participer dans cette collaboration. Et cela puisque la musique est un message de paix et de bonheur pour moi.
Le bonheur et l'émotion ont été ressentis aussi par le public, charmé par ce mélange d'espagnol et d'arabe, de chansons poignantes, si profondes, venues aussi bien de l'Espagne chérie, de Carlos Domínguez, et du Liban, blessé de la chanteuse libano-arménienne et du second guitariste Christian Sebrini. Et parmi les surprises qui ont enchanté les spectateurs, une chanson en espagnol composée spécialement par Carlos Domínguez pour Beyrouth. Beyrouth comme métaphore de la rencontre et du désaccord entre l'Orient et l'Occident, un engagement d'espoir et de dialogue. Cette chanson est née en hommage aux victimes de l'explosion du port de Beyrouth, selon le compositeur espagnol qui souligne
« Pues visité por primera vez Líbano en 2022 ». Justo después del COVID, era de los primeros viajes que hacía, cuando se podía volver a viajar, y vine aquí en la primavera de 2022. Tenía muchas ganas de conocer el país y, bueno, pues me enamoré del país, de los lugares, de las ciudades. Visité Beirut, visité Biblos, visité Batrún, Baalbek, Tiros, Sidón, ciudades que me encantaron por la historia que tiene y luego me enamoré de su gente y de sus personas.
Organisé par l'Instituto Cervantes de Beirut, les concerts de l'auteur-compositeur-interprète espagnol et de la soprano libanaise sont un véritable pont entre les cultures, comme l'exprime Haifa Yeryayan.
La musique, c'est une langue internationale, mais je ne connais pas la langue espagnole, mais j'aime bien l'apprendre un jour. Chanter en arabe avec l'espagnol a un différent goût. Alors, il peut unir la musique avec les mots et me rend très fière que je suis libanaise.
Un message de paix qui a plus que jamais sa raison d'être dans un Moyen-Orient en proie à l'insécurité. Pour preuve, coïncidant avec les dernières minutes du concert à Baalbek, 3 missiles israéliens ont touché un bâtiment situé dans un quartier résidentiel à quelques kilomètres du lieu du concert. Lorsque l'attaque s'est produite, certaines personnes ont quitté la salle, la majorité a continué jusqu'aux dernières notes. Et voici la réaction de Carlos Domínguez.
La situación, evidentemente, me duele muchísimo lo que está pasando, como a tanta gente en España y en cualquier lugar del mundo, yo creo. Y es verdad que iba viendo, según se iba generando la idea del concierto, iba viendo cómo iba empeorando toda esa situación. Y lejos de asustarme o de quitarme las ganas, cuanto peor veía eso, más necesario sentía que era transmitir ese mensaje que queríamos transmitir con el concierto.
لصخرة كأنها وجه بحار قدير أنت لي أنت لي راحنا عشقيني أنت لي دمعة الأمة
في بيروت
أنت بيروت
في بيروت
أنت
في بيروت
آه عالقي
أطويدا.
Chanson pour un temps meilleur, canciones para un tiempo mejor. Jamais la musique n'a résonné si fort contre la barbarie de la guerre. Elsa Yazbek Charabati pour l'émission en français, Radio Exterior de España.
Nous sommes avec Sandra Monac. Sandra est commissaire indépendante et directrice des Trobades Camus, un rendez-vous avec la culture et la pensée critique qui, depuis 2017, a lieu toutes les années à l'île des Minorques en Espagne. Bienvenue Sandra, c'est un plaisir de vous accueillir ici à Radio Exterior.
Bonjour.
Alors, le mot Trobades, ça provient du catalan. On peut le traduire par exemple comme des rencontres en français. Alors, c'est quoi exactement le Trobades Camus ? Parce qu'on pourrait le définir peut-être avec une étiquette un peu réductrice comme événement culturel, mais c'est quoi exactement ?
Mais écoutez, pour nous, c'est vraiment un espace de rencontre, donc de là son nom, effectivement, un espace de rencontre avec, d'une part, la pensée d'Albert Camus, que nous considérons qui est une grande actualité. Donc vraiment, c'est un projet qui tente de renouer avec cette pensée-là, avec sa philosophie, avec sa façon de voir le monde. Et d'un autre côté, c'est un projet qui tente d'être à la rencontre des personnalités du monde de la culture, du monde actuel. C'est-à-dire, nous permettons d'être une espèce de plateforme pour que les créateurs et les créatrices contemporains puissent avoir un espace à Minorque pour nous donner leur vision du monde et pour finalement partager avec nous leur vision du monde, parce que nous considérons qu'il faut donner plus de place justement à la culture dans le monde dans lequel nous vivons.
Et cette idée, comment s'est-elle développée ?
Eh bien, elle est née en fait, donc comme vous avez bien indiqué, en 2017, avec la rencontre, une fois de plus aussi, à Minorque, d'un espace culturel qui s'appelle la salle Albert Camus, puisqu'en fait, c'est à Minorque qu'est née la grand-mère d'Albert Camus. Et donc, en 2017, nous avons décidé de renouer, comme je disais tout à l'heure, avec la pensée d'Albert Camus, mais surtout de revenir, disons, d'une certaine façon, aux origines, à cette terre donc de la grand-mère d'Albert Camus, qui avait dû ensuite immigrer en Algérie, pour, depuis cette île de la Méditerranée aussi, cette Méditerranée tellement chère à celui qui est notre guide, qui est Albert Camus, et qui est tellement important aussi dans notre actualité, et bien depuis cette île, depuis la Méditerranée, essayer justement de mettre en place ce projet. Et en 2017, en plus, on célébrait les 60 ans de la remise du prix Nobel à Albert Camus. Donc, il y avait tous ces éléments qui nous permettaient de lancer ce projet qui maintenant va avoir 8 ans de vie.
Oui, tout à fait, parce que la pensée d'Albert Camus, en fait, elle est d'actualité. Mais quelles sont les valeurs de la pensée d'Albert Camus que vous revendiquez le plus ?
Oui, effectivement, donc la pensée et l'écriture d'Albert Camus est d'une grande complexité et nous apporte beaucoup de choses, mais il est vrai que pour nous, depuis le projet des Trois et Plèmes Méditerranées d'Albert Camus, nous nous centrons autour de trois concepts clés. Le concept de la rébellion, le concept de l'humanisme et la justice. Trois concepts qui pour nous sont essentiels de remettre sur la table d'une certaine façon, de restituer à nous en tant que citoyens pour essayer justement de pouvoir être et déambuler, disons, en tant que citoyens d'une façon différente dans le monde actuel.
Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, une des particularités des Trobades, de ces rencontres, c'est le fait que les invités sont tous issus de milieux très différents, aussi bien du point de vue de leur métier que de leur origine culturelle. Ils sont invités à dialoguer entre eux autour d'un sujet commun. Donc ce n'est pas rare de voir, par exemple, des artistes plastiques, comme Gaobo, qui est d'origine chinoise mais résident en France, dialoguer avec une écrivaine espagnole comme Belengo Perry, ou avec une artiste nigérienne, ou une actrice de Mallorca comme Anne Jobet. Donc quelle est pour vous la richesse de cet échange entre différentes origines et milieux culturels, artistiques ?
Oui, c'est effectivement, vous faites bien de le remarquer. En fait, c'est vrai, c'est une des particularités de ce projet, notre volonté justement de qu'il n'y ait pas de frontières au niveau culturel. Et donc de ce côté-là, Camus le disait bien, il ne se dénominait pas comme un simple écrivain, il se dénominait comme en tant qu'artiste. Et donc on voulait absolument que ce projet soit dans cette multiplicité-là. Et c'est pour ça que nous invitons non seulement des Camusiens, c'est-à-dire des personnes spécialistes de l'œuvre de Camus, mais également des écrivains, bien évidemment, des penseurs, des philosophes, mais également, comme vous le soulignez, des artistes de toutes disciplines confondues et aussi de toute origine et de générations diverses. Parce que nous sommes convaincus que c'est à travers cette diversité que le dialogue, que l'échange peut vraiment être positif finalement et nous enrichir tous. Donc de ne pas rester finalement dans une pensée unique, dans une pensée purement, disons, camusienne, tout au contraire, d'essayer d'enrichir ce dialogue-là à travers le regard de multiples de personnalités venant de tous bords.
À part le rencontre, les trobades elles-mêmes, il est notre partie de trobades et premis Albert Camus, que c'est le prix Albert Camus, mm-hmm. le prix Albert Camus Incipiens. Alors, mm-hmm. est-ce que ces prix visent à reconnaître?
Eh bien, effectivement, donc comme vous le soulignez, donc le projet, c'est un projet de rencontre d'un côté, donc où la parole est un des modes essentiels, mais aussi on développe aussi toutes sortes d'activités culturelles. Et d'un autre côté, nous avons décidé de mettre en place deux prix. Un premier prix qui est le prix Pleine Méditerranée Albert Camus, qui est autour d'une longue trajectoire, c'est-à-dire l'objectif, c'est qu'on offre aux différents jurys qu'on établit tous les deux ans, c'est de différents candidats qui, pour nous, ont, disons, d'une certaine façon, suivent un peu la stèle camusienne, mais ils peuvent être ces candidats aussi bien du monde donc des arts plastiques, des arts visuels, de l'écriture, du journalisme, de la pensée, même de la musique. Et le jury donc doit choisir un finaliste autour de ces six différentes catégories. Et comme je dis, c'est au travers donc d'une longue trajectoire, donc normalement des personnalités du monde de la culture qui ont déjà, disons, un cursus derrière eux assez important. Et d'un autre côté, nous avons établi en 2020 un autre prix qui s'appelle donc le Prix Méditerranée Albert Camus Incipiens pour un journalisme engagé. L'idée, c'était vraiment de revenir sur les prémices qu'a établi Camus autour du journalisme, l'importance du journalisme aujourd'hui. Et pour cela, nous avons mis en place ce prix dans l'objectif de promouvoir des projets de réflexion journalistique. Et donc là, les choses se passent autrement. Nous avons un nombre de nominés qui nous proposent des possibles candidats de la Méditerranée. Et normalement, c'est donc des jeunes écrivains ou journalistes ou photographes ou aussi artistes, mais qui vont défendre un projet. Et ce projet, nous allons donc le mettre en place ensemble.
Je me demande aussi à propos de l'accueil du projet, disons à Minorque, parce qu'une partie très importante de l'événement est ces cadres physiques dans lesquels il s'insère, qui devient pour moi, ou pour tous ceux qui ont eu l'opportunité d'y assister, et ça devient un autre protagoniste de l'événement. Et vous ne négligez pas non plus le tissage des liens avec la communauté locale, qui est en effet l'un des vos publics principaux. Et en fait, le catalan est l'une des langues de communication que vous utilisez à côté de l'espagnol, du français, de l'anglais. Et il y a aussi un bon nombre d'invités des éditions passées qui sont à Minorque, du moins aux îles Baléares. Donc, quelle est la réception de cet événement à l'île de Minorque, dans la communauté locale?
Bien, en tout cas, pour nous, c'est tout à fait essentiel de mettre en place ce projet-là. Déjà, comme je l'ai dit au tout début, l'idée de revenir donc sur cette île de la grand-mère, mais aussi d'une échelle absolument humaine, et moi je dirais donc camusienne, dans un besoin finalement dans les vies contemporaines dans lesquelles nous vivons, qui sont absolument accélérées, le temps aussi de se poser pour pouvoir être à l'écoute et recevoir finalement tous les savoirs que nous recevons à travers ces différents invités. Et donc le cadre de Minorque est pour nous absolument essentiel. Et donc de là, depuis ces derniers 8 ans, ce que nous essayons effectivement, c'est d'établir des liens aussi avec les différentes institutions culturelles de l'île, les différents partenaires de l'île, afin d'être de plus en plus ancrés aussi dans cette île-là. Une île qui n'a bien sûr, avant que ce projet naisse, a aussi une approche assez importante au niveau de la lecture. Il y a déjà beaucoup de clubs de lecture, des ateliers de lecture, donc ça nous permettait aussi de mettre en place un projet qui était près, disons, d'un public possible. Et bon, les dernières éditions nous l'ont prouvé, qu'il y a vraiment un public qui nous suit et qui attend ce rendez-vous annuel à chaque printemps.
Et juste pour finir, qu'est-ce que nous pouvons espérer de cette édition 2024?
Eh bien, cette édition, elle est assez complète aussi. Donc, il y a, disons, une de ses caractéristiques majeures, ça sera bien évidemment la parole. Donc, une journée complète de débat qui sera à charge non seulement des différents membres du jury qui nous accompagnent cette année, mais aussi des candidats au prix, puisque comme toute nouveauté cette année, nous faisons venir les finalistes de nos deux prix seront avec nous à Minorque et on connaîtra directement dans la salle Albert Camus qui seront les lauréats de nos deux prix. Donc ça, c'est déjà une nouveauté. Et puis, à part ça, nous avons décidé d'organiser aussi une exposition photographique qui inaugure cette édition de la photographe de Magnum, Lua Ribeira, qui justement, son langage absolument dépuré pour nous rentrer en perfection avec la thématique choisie, puisque donc, comme tous les ans, nous travaillons autour d'une thématique et cette année, nous pensions qu'il était fort nécessaire de repenser le monde, comme nous le suggérait Albert Camus. Et nous finirons, j'espère en beauté, notre week-end dans un lieu absolument symbolique qui est un espace talayotique, tellement caractéristique de Minorque. Et là, nous aurons la chance de découvrir deux performances qui ont été mise en place spécifiquement pour ce lieu, une d'une performeur baléare, minorquine, et ensuite nous allons faire venir justement un duo palestinien, caméléon, pour aussi être au plus près finalement de la réalité du monde, comme nous l'exigeait aussi Camus, le besoin finalement que les artistes interviennent aussi dans les affaires du siècle, comme il nous disait. Et donc, bien sûr, la Palestine sera avec nous cette année aussi à Minorque.
Vous nous avez transmis l'envie d'y aller à Minorque. Et je vous souhaite les plus grands de succès dans cette édition 2024. Je vous rappelle que cette édition 2024, elle aura lieu entre les 3 et les 5 mai 2024. Et merci donc, Sandra, d'avoir consacré quelques minutes à participer à l'émission en français sur Radio Extérieure. Un très grand merci de notre part.
Eh bien, merci à vous, en tout cas, de cette opportunité de parler du projet. Un grand plaisir. Merci beaucoup.
Je suis parfois beaucoup trop grand, parfois beaucoup trop petit.
Merci à Sandra, à Monac et à Oliver pour cette rencontre. Je vous laisse maintenant avec Mika, l'artiste d'origine libanaise et son hommage à l'icône Jane Birkin, inclus dans son dernier album « Que ta tête fleurisse toujours ».
De la piscine pour vivre mon rêve jusqu'au bout. J'aime à son moment. tous ces regards qui me fascinent. J'ose pas sortir de la piscine.